Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui, nous allons parler d'un album fabuleux appelé The Beatles, souvent surnommé l'album blanc ou double blanc, à cause de la couleur de sa pochette extérieure entièrement blanche, et qui possède un numéro exemplaire. Pour info, je possède le 371-425. Double album donc, des Beatles, sorti en novembre 1968 sous leur propre label, Apple Records, et contenant 30 chansons originales. C'est le 9e album du groupe, il sera durant 8 semaines en tête des hit-parades au Royaume-Uni, et durant 9 semaines aux USA. Il fut 19 fois disque de platine, c'est-à-dire vendu à plus de 19 millions d'exemplaires. Avec cet album, les Beatles prennent un nouveau virage musical dans leur carrière. Explorés en long et en large depuis Revolver jusqu'à Magical Mystery Tour, le psychédélisme laisse place à un retour vers le rock'n'roll, des arrangements plus simples et des textes moins philosophiques. John Lennon dira souvent que les Beatles, consciemment ou non, ont voulu tourner la page de Sgt. Pepper pour revenir à une musique plus simple, composée durant le séjour du groupe au nord de l'Inde, à Rishikesh, dans l'ashram du Maharishi Mahesh Yogi. Dans cet album, Paul McCartney s'affiche en brillant touche-à-tout. George Harrison affirme ses talents d'autocompositeur. Ringo Starr enregistre une première composition, tandis que John Lennon va de plus en plus loin dans l'introspection, dans la dérision, se montre même iconoplaste ou mordant, et surtout chante son amour pour sa nouvelle âme-sœur, Yoko Ono, dont l'omniprésence est facteur de tension entre les membres du groupe. Le disque est enregistré entre mai et octobre 1968, majoritairement au studio EMI d'Abbey Road. C'est d'ailleurs pendant ces sessions que les Beatles enregistrent une chanson d'une longueur exceptionnelle, de près de 7 minutes, Hey Jude. Seul hic et preuve du trouble résultant de ces sessions, on s'interroge en France avec le magazine Rock and Folk, qui titre « Est-ce la fin des Beatles ?» Lors de leur stage de méditation en Inde, les Beatles côtoient, entre autres, Mike Love des Beach Boys. Et celui-ci suggère à Paul McCartney de faire un pastiche de Back in the USA, un des titres de rock'n'roll signé Chuck Berry. Et McCartney le prend au mot et il écrivit Back in the USSR. Et dans cette chanson, Paul McCartney raconte à la première personne l'histoire d'un homme qui rentre en URSS à bord d'un avion en provenance de Miami Beach. Il évoque la beauté des femmes soviétiques, le son de la balalaïka et le plaisir de revenir sur sa terre natale. Dans une interview de 1984 pour le magazine Playboy, Paul McCartney dira que c'était une main tendue, ajoutant en plus « parce que les gens nous aimaient là-bas, malgré les dirigeants du Kremlin, les gosses aussi nous aimaient ». Pourtant, malgré le mépris officiel des communistes envers les Beatles, le titre déclenche l'hostilité des conservateurs américains, croyant à de la propagande communiste. Durant les sessions de l'album blanc, les quatre Beatles travaillent la plupart du temps séparément pour calmer les tensions. Mais le 22 août 68, pendant l'enregistrement de la chanson, s'estimant mauvais et isolé des autres, Ringo Starr s'en va. Back in USSR est ainsi enregistré sans lui, en août 68. Les parties de batterie sont essentiellement assurées par Paul McCartney, bien que John Lennon et George Harrison aient également joué de l'instrument sur ce morceau. Lennon joue aussi de la basse à six cordes. Mais Ringo Starr revient en septembre 68 pour le tournage des vidéos promotionnelles de Hey Jude et de Revolutions, une chanson de l'album. Et en arrivant dans le studio, il trouve sa batterie couverte de fleurs et en plus, il avait précédemment reçu un télégramme des autres Beatles disant « Tu es le meilleur batteur du monde, reviens ». C'était Back in USSR par les Beatles pour OxyWeb Radio. John Lennon compose Dear Prudence en mars 68, toujours à Rishikesh, en Inde. Les Beatles y sont venus pour approfondir leur expérience de la méditation transcendantale, accompagnés entre autres par le chanteur folk Donovan et l'actrice américaine Mia Farrow. Cette dernière est accompagnée de sa sœur, cadette, Prudence, qui passe ses journées à Rishikesh, cloîtrée dans son bungalow, inspirant cette chanson à Lennon. En fait, Prudence Farrow avait appris la méditation transcendantale en 1966. Aussi, elle voulait profiter au maximum des cours du maître indien, suscitant l'inquiétude de Lennon et Harrison. En plus, il se trouve que les Beatles profitèrent de leur pause pour composer, et cela s'avéra très prolifique. Et Prudence se souvient ainsi de son séjour en Inde. « C'était un moment très particulier pour moi. Dans la soirée, j'entendais John, George et Paul composer dans leur chambre, proche de la mienne. Parfois, ils venaient dans ma chambre pour jouer leurs nouvelles compositions, pensant qu'ils me réconfortaient. J'appréciais leur attention, mais je préférais rester seul pour méditer. » John Lennon et George Harrison amenaient donc leur guitare dans sa chambre pour l'inciter à sortir. Ce fut l'inspiration de la chanson « Dear Prudence », dans laquelle John chante « Chère Prudence, ne veux-tu pas venir jouer dehors ? Le soleil est haut, le ciel est bleu, c'est merveilleux, tout comme toi, chère Prudence. » Sur le morceau, c'est Paul McCartney qui joue de la batterie, Ringo étant toujours absent. Et pour la partie de guitare, Lennon utilise la technique de picking que Donovan lui a enseignée en Inde. C'était Dear Prudence par les Beatles pour OxyWeb Radio. While My Guitar Gently Weeps est une chanson écrite par George Harrison. Pour cette chanson, George Harrison s'inspire de la philosophie du Yi Jing qui dira Il dira que cette pensée lui semblait basée sur le concept oriental selon lequel toutes les choses sont relatives entre elles, ce qui est opposé au point de vue occidental selon lequel les choses sont simplement fortuites. Voulant appliquer le concept, il décide d'écrire une chanson en partant des premiers mots qu'il lirait en ouvrant un livre au hasard, de telle sorte que le texte qu'il écrirait serait relié à cet instant précis. Il ouvrit donc un livre où la première chose qu'il vit fut « Gently Weeps », qui veut dire « pleure doucement ». Il construit donc sa chanson autour de ces deux mots. Le travail en studio sur cette chanson s'étale sur une longue période. La première session d'enregistrement a lieu le 25 juillet 1968 avec une première prise en solo de George Harrison à la guitare acoustique et à l'orgue. Puis le groupe complet s'y attelle et en fait ils font 44 prises et choisissent de garder la 25e. Mais en fait, déçu par le résultat, George Harrison demande à Eric Clapton, son ami, de venir au studio le lendemain. Et celui-ci enregistre le solo avec sa Gibson Les Paul, tandis que Paul McCartney ajoute une intro au piano. Dans cette période de tension extrême, la présence d'Eric Clapton, comme celle de Billy Preston à l'époque des sessions du projet Get Back, fait beaucoup de bien en groupe, qui joue avec beaucoup plus de cœur et de cohésion. Côté technique, une nouvelle voix, des chœurs, une fuzz basse, des percussions et un orgue sont ajoutés. Après avoir écouté le mix final, Eric Clapton remarque quand même un problème. Et il dit « ça ne sonne pas assez Beatles ». Le morceau est donc passé dans l'Automatic Double Tracking. C'est une machine qui produit un léger tremblement sur les sonorités. La participation de Clapton à cet enregistrement a longtemps été niée du fait qu'il était sous contrat avec une autre maison de disques. Elle a été officiellement admise que dans les années 80, même si les spécialistes avaient immédiatement reconnu son style et notamment son vibrato de la main gauche. Surely be learning. C'était pendant que ma guitare pleure doucement, While My Guitar Gently Weeps, des Beatles, pour OxyWeb Radio. Martin Miley est composée par Paul McCartney. Elle fut enregistrée en octobre 68. C'est un véritable ragtime et donc on se rapproche du blues. Il montre ici, Paul McCartney, sa capacité à puiser son inspiration dans la musique noire quand il le veut. Et que Martha soit le nom de la chienne de Paul, un bobtail de 2 ans, le thème de la chanson est une supplique du chanteur adressée à celle qu'il aime, lui demandant de ne pas l'oublier, car il éprouve toujours des sentiments pour elle. En fait, cette chanson est directement adressée à Jane Escher, avec laquelle Paul devait se marier en 68. Mais alors que l'actrice est en tournée, il se mit à sortir avec d'autres filles. Et la rupture des fiançailles fut annoncée en juillet 1968, et c'est Jane elle-même qui l'annonça. Elle dit d'ailleurs « Nous nous voyons et nous nous aimons encore, mais ça ne peut pas marcher », comme elle l'expliqua. « C'est peut-être un amour d'enfance qui nous fera nous retrouver et nous marier quand nous aurons 60 ans ». En fait, le destin en décida autrement. Paul sortait déjà avec Linda Eastman en 1968 et Jane rencontra l'illustrateur Gérard Scarfe au début des années 70, avec qui elle se maria en 1981 et eut 3 enfants. Martin My Dear par les Beatles pour OxyWeb Radio. Blackbird est une ritournelle typiquement folk dans le même esprit dépouillé que la plupart des chansons de l'album blanc. Elle est composée et interprétée par Paul McCartney. Ce dernier l'enregistre seul le 11 juin 68 au studio EMI d'Abbey Road. 2 versions différentes circulent au sujet de l'histoire de la création de Blackbird. Selon la première version, McCartney s'est simplement réveillé un matin et a entendu un merle noir chanter. Il a pris sa guitare et s'est mis à transcrire le chant de l'oiseau en musique. La deuxième version suppose qu'il ait entendu à la radio des nouvelles concernant les tensions raciales aux États-Unis et qu'il ait composé la chanson en référence au noir américain, d'où le titre Blackbird, qui signifie littéralement « oiseau noir ». Paul dira qu'il pensait en fait à la militante américaine Angela Davis, qu'il a caricaturée avec ce titre. Pour autant, pour la musique, McCartney a confirmé son inspiration originale venant d'une composition de Bach, labourée en mi mineur, que George Harrison et lui tentaient d'apprendre depuis leur jeunesse. Incapable de la jouer correctement, il a développé sa propre mélodie en s'inspirant du jeu à deux voix, le pouce jouant la ligne de basse et les autres doigts la mélodie. Une sorte de finger picking façon Robert Johnson, le célèbre bluesman. Seules deux overtures sont effectuées lors de la session d'enregistrement, un doublement de sa voix durant le refrain et l'ajout du chant d'un merle à la fin de la chanson, ce qui me fait dire qu'il y a un peu des deux dans les raisons de la création de cette chanson. À la fois avoir entendu un merle et aussi écouter les informations sur les troubles aux États-Unis. Blackbird est une des chansons les plus reprises au monde. La liste qui suit est donc loin d'être exhaustive. De Jaco Pastorius, le célèbre bassiste de jazz, à Crosby, Stills, Nash & Young, Billy Preston, Carl Simon, Neil Diamond ou encore Petula Clark. La chanson est aussi utilisée sur Love, bande sonore du spectacle éponyme du Cirque du Soleil. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. C'était Blackbird des Beatles sur Oxy Web Radio. Yeah Blues est de John Lennon. Elle est composée aussi à Rishikesh. Et en fait, là, il se trouve avec son épouse Cynthia à ses côtés. Alors que John est tombé amoureux de Yoko Ono, qui se trouve donc à des milliers de kilomètres de là. Et il est en fait dans un état de désespoir avancé, atteint par des pulsions suicidaires. Yeah Blues est donc un appel à l'aide angoissé, adressé par John Lennon à sa future femme, celle à laquelle il dit avoir pensé, sans même la connaître, lorsqu'il écrivait par exemple « Girl » en 1965. Cette chanson annonce la rupture de son premier mariage et les orientations musicales qu'il prendra dès le début de sa carrière solo. Yard Blues, qui comme son nom l'indique est structuré comme un pur blues, est enregistré au studio EMI d'Abbey Road le 13 août 68, dans des conditions exceptionnelles décrites par Ringo Starr. Nous étions insurpassables. c'était vraiment nous quatre. C'est ça ce que je peux dire. C'est arrivé parce que nous étions tous les quatre dans une boîte, une pièce sans cloison d'environ 8 mètres de sur 8. C'était le groupe ensemble. C'était une sorte de rock grunge avant l'heure. En fait, du blues grunge. Les Beatles se sont donc regroupés, resserrés dans un cassis-placard attenant à la salle de contrôle du Studio 2 pour 14 prises live du titre de John Lennon. John est au chant, bien sûr, et à la guitare. George à la guitare solo, Paul à la basse et Ringo à la batterie. Ce sont les vrais Beatles. Le résultat est un collage de plusieurs prises jouées en live, collage perceptible notamment au bout des 3 minutes 17 après le roulement de batterie. Je vous invite à y faire attention. The reason why. C'était Yeah Blues par les Beatles sur Roxy Web Radio. Mother Nature's Son est une chanson composée et jouée en solo par Paul McCartney. Il s'agit d'un hymne à la nature. Paul McCartney l'a composée en s'inspirant d'une conférence du maître spirituel lors de ce séminaire au pied de l'Himalaya, conférence ayant pour thème l'unité de l'homme et la nature. En fait, il va ressortir une vieille chanson non aboutie de sa jeunesse. Et McCartney raconte, en 1994, « Je crois me souvenir que j'ai composé Mother Nature's Son dans la maison de mon père à Liverpool. J'ai toujours aimé la chanson Nature Boy et Mother Nature's Son est directement inspiré de cette chanson. J'ai toujours adoré la nature, bien sûr, et quand Linda et moi sommes sortis ensemble, nous avons découvert que nous avions cet amour profond de la nature en commun. Et j'ai peut-être reçu un peu d'aide de John pour quelques vers de la chanson. » Le thème est l'émerveillement devant le ciel, le vent, le soleil, les montagnes, et McCartney écrit du point de vue d'un jeune paysan. Mais Paul ironise en 1968 en disant « ça dit que je suis né pauvre jeune homme de la campagne, alors qu'en réalité il est né à l'hôpital de Walton à Liverpool. » Et donc c'est un vrai mensonge. Après la session du 9 août qui se termine vers 22h, chacun rentre chez soi, à l'exception de Paul McCartney, qui reste travailler sur Mother Nature's Son, justement. Il réalise ce soir-là 25 prises au chant et à la guitare acoustique, tout en picking, travaillant surtout à résoudre un problème de l'introduction. Il considère finalement que la 24e prise est la meilleure. McCartney se consacre seul à sa chanson avec l'ingénieur du son Alan Brown. Il se livre à divers essais afin que le son de sa grosse caisse, par exemple, ressemble à un bongo. Et pour cela, ils enregistrent l'instrument dans un cage d'escalier. Puis il double la guitare acoustique et ajoute des timbales. Vient enfin le tour de l'enregistrement des cuivres, qui sera orchestré par George Martin lui-même. Et à nouveau, dans l'escalier. Le mixage mono est réalisé ce soir-là, et voilà ce que ça donne. C'était Mother Nature's Son, par les Beatles sur Oxy Web Radio. Encore une chanson de Paul McCartney, elle s'appelle Helter Skelter. Ce morceau est souvent évoqué comme un des précurseurs du heavy metal. En Grande-Bretagne, le mot Helter Skelter désigne une attraction de fête foraine, une sorte de toboggan en hélice conique qui tourne autour d'une tour par où l'on monte. L'écriture de Helter Skelter a été inspirée à Paul McCartney par une interview des Who, au cours de laquelle Pete Townshend, le guitariste de ce groupe, décrivit leur dernier single, I Can See For Miles, comme un son lourd et brutal, et comme le morceau le plus vulgaire que les Who aient jamais enregistré. McCartney, intrigué, en entendant ensuite le single, fut en fait déçu, et le trouva somme toute assez conventionnel. Il a composé Helter Skelter en réaction comme le morceau qu'il aurait aimé entendre à la suite de cette description. Dans un registre plus ancien, Paul McCartney était souvent vu comme le gentil Beatle, car il composait la majorité des ballades. Et ce morceau lui permit de prouver qu'il était capable de signer des compositions très rock à l'image de Lennon. Ce qui est amusant de constater, c'est que de son côté, John Lennon, justement, entreprit de composer une magnifique ballade plus que dépouillée et qui s'appelle Julia et qui est en fait un hommage à sa propre mère. Les Beatles ont enregistré la chanson 18 fois. Lors de la séance d'enregistrement du 18 juillet 1968, une des versions de la chanson durait même 27 minutes et 11 secondes, c'est pour dire. Elle était lente et hypnotique. Après 18 versions de Helter Skelter, Ringo Starr lança ses baguettes dans le studio et cria « I got blister on my fingers », ça veut dire « j'ai des ampoules aux doigts ». Et les Beatles ont conservé le cri de Ringo Starr en stéréo sur la version finale de la chanson. Et voilà encore une fois ce que ça donne. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to love you?
Well, look out! Helter Skelter!
T'es énervé, Ringo Starr, à la fin du morceau Helter Skelter par les Beatles sur Oxy Web Radio. Revolution est composé par John Lennon et fut publié dans deux versions différentes en 1968. La première version est enregistrée dans un style blues et lent, harmonisé et arrangé avec des cuivres. Cette chanson n'est pas jugée assez commerciale pour paraître en single. Aussi, sous l'impulsion de Lennon, une autre version est donc mise en boîte en juillet, cette fois plus rapide, aux sonorités hard rock avec des guitares saturées. C'est cette version qui sort en face B d'Hey Jude. Revolution est la première chanson ouvertement politique des Beatles. Elle s'inscrit dans le contexte politico-social particulièrement agité de 1968 et constitue la réponse de John Lennon aux divers groupes révolutionnaires qui demandaient son soutien financier et moral. Le titre est trompeur parce que le texte n'appelle pas à un soulèvement massif, mais plutôt à une remise en question quant à la façon de révolutionner les choses, qui devrait, selon l'auteur, se faire sans violence. Revolution annonce, en fait, l'engagement politique qui sera celui de John Lennon, et d'autres titres découleront par la suite, et notamment Give Me a Chance et Imagine, qu'il enregistrera plus tard en solo. L'album blanc contient par ailleurs le titre Revolution 9, qui est un long collage sonore expérimental réalisé par John Lennon et sa compagne Yoko Ono, à partir justement de l'enregistrement de Revolution 1, qui est le morceau de l'album, et qui constitue, selon John Lennon, le versant abstrait de son message. Et voici Revolution 1. Okay.
Evolution.
C'était Revolution One par les Beatles sur Roxy Web Radio. Je propose une dernière chanson tirée de cet album qui est un peu un trait d'humour façon Beatles. En effet, Savage Truffle est une chanson de George Harrison qui lui a été inspirée par l'amour de son ami Eric Clapton pour le chocolat. Oui, vous avez bien entendu, le chocolat. Les paroles énumèrent les différentes saveurs offertes dans les chocolats Good News de Macintosh et servent d'avertissement à Clapton au sujet de l'effet néfaste que son petit péché mignon aurait sur ses dents. Quand on connaît les addictions que va connaître Clapton dans les années qui suivent, je trouve cette idée assez mignonne. Avec l'apparition de Clapton sur la chanson While My Guitar Gently Weeps de l'album, ainsi que celle de Harrison sur la pièce Badge de l'album Goodbye de Cream, c'est l'une des nombreuses collaborations qui marque le début d'une longue association musicale entre les deux guitaristes. Pour revenir à Savoy Truffle, les Beatles ont enregistré cette chanson en octobre 68, vers la fin des sessions qui ont duré finalement 5 mois. Une pièce rock optimiste dans le genre soul. La chanson reflète le retour de George Harrison à la guitare comme son instrument de musique principal après 2 ans d'études du sitar indien. L'enregistrement comprend une section de cuivre arrangée par Chris Thomas. Et grâce à la référence des paroles à Obladi Blada, la chanson est aussi un exemple de l'utilisation de l'autocitation des Beatles dans leur travail ultérieur. À sa sortie, Savage Truffle a été considéré par de nombreux commentateurs comme un signe de la maturité croissante de George Harrison en tant que compositeur. Parmi les évaluations les plus récentes, Ian MacDonald l'a cité comme un exemple du matériel moins bon trouvé sur l'album The Beatles, tandis que de son côté, Daryl Hessler de BBC Music le décrit comme un contrepoids à While My Guitar Gently Weeps. Mais pour info, Ella Fitzgerald et Terry Manning en ont également enregistré une version. Ce qui fait que eux aussi, comme moi, adorent cette chanson, et je pense que ceux qui vont la découvrir auront la même réaction. Savoy Truffle par les Beatles sur Roxy Web Radio qui termine la présentation du double blanc des Beatles. La semaine prochaine, je vous propose d'écouter une super session, c'est le nom de l'album, dans lequel on retrouvera Al Kooper, Mike Bloomfield et Stephen Stills. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine et de rouler blues.